Je voudrais d'abord faire une lecture dans Luc au chapitre 2, mon cher Christophe. Luc chapitre 2, nous allons lire en fait le récit de la naissance de Jésus écrit par Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Jésus aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers, qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici un ange leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous sommes dans une période particulière. Vous êtes d'accord avec moi ? Pas seulement parce que c'est la fin de l'année, mais parce que c'est l'an 2012. Oh non, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, 2012. Et 2012, tout le monde avait déjà prévu la fin. J'ai entendu dire que les Australiens, parce que c'est les Australiens qui sont les premiers à voir le soleil se lever, j'ai entendu dire que beaucoup de gens téléphonaient en Australie pour demander s'ils étaient encore vivants. Et quand ils ont su que les Australiens étaient encore en vie, ils se sont dit peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour le monde. La fin des temps. Une chose que certains prennent au sérieux, une chose que d'autres ne prennent pas du tout au sérieux, et quoi qu'il en soit, les gens s'en foutent. Vous savez quoi ? Demain, c'est réveillon. Les gens vont boire. Et ils vont encore manger. Ils vont encore parler de perspectives de l'année prochaine. Toutes ces choses sont là, bien sûr, comme indication de notre existence, que la vie a une limite. Même si cette fois-ci, c'est peut-être une farce, parce que c'est pas un calendrier qui nous correspond peut-être, mais la vie a un sens, mais la vie a une fin aussi. Il y a toujours une échéance avec la vie. Mais ce matin, je ne vais pas parler de ça. Ce matin, j'aimerais vous proposer simplement de rassembler autour de tout ce que nous venons de lire et d'entendre à travers tout ce récit aussi de Jésus-Christ, de sa naissance. J'aimerais vraiment simplement pour me poser une question. Une naissance, pas comme les autres. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors, ce que j'aime, c'est que Luc, l'auteur de cet évangile, vous savez qu'il y a quatre évangiles, quatre personnes qui ont écrit, chacun selon ses données, sa richesse, qui ont écrit à propos de Jésus-Christ, à la fois de sa venue au monde, mais aussi de son ministère, de tout le travail qu'il a fait. Vous savez qu'il y en a quatre. Et Luc, que nous venons de lire, a une signature particulière. En arrière-plan, c'est un médecin. C'est un médecin et c'est aussi quelqu'un qui s'essaye un peu dans l'histoire. C'est comme un peu un historien. C'est bien sûr un chrétien qui connaît bien la théologie, etc. Mais c'est un homme de science. C'est un homme qui aime l'exactitude. Et ce que j'aime chez Luc, c'est le fait qu'il est préoccupé par le souci de détails historiques. Vous voyez, d'entrée de jeu, tu peux montrer, d'entrée de jeu, il commence par situer. En ce temps-là, il situe déjà l'époque. Il situe l'époque déjà, il situe la circonstance qui a permis la naissance, qui a permis que Jésus puisse naître. Et donc, le voilà qui le présente. Qui présente donc que Jésus est né sur une terre précise, dans une période déterminée, entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. Et cela se passe dans l'Empire romain, plus précisément dans la province de la Syrie, et plus encore dans le territoire de la Palestine, en tout cas en ce qui concerne donc la vie de Joseph et de Marie. Il précise aussi quel empereur régnait en ce temps-là. Et il précise aussi qui en était le gouverneur, qui était les autorités de l'époque. On pourrait se dire, mais pourquoi il s'amuse à ce jeu, Luc? À quoi il joue quand il fait tout ça? En fait, c'est comme si Luc voulait tout simplement souligner par ce fait que l'histoire de Jésus est une histoire vraie. Aussi vraie que l'histoire de Jules César, aussi vraie que l'histoire de tout personnage de l'histoire qui est connu et dont on connaît, dont on peut situer exactement la période de vie. Luc veut souligner l'historicité de Jésus-Christ. Pas simplement que c'est quelqu'un qui a écrit, dont on a parlé comme ça vaguement en inventant. C'est pas un mythe. C'est pas une allégorie. C'est pas des fables. Jésus a bel et bien existé. Et si Jésus a bel et bien existé et que cela est écrit dans une Bible, ça veut dire qu'il y a dans la Bible des faits qui sont exacts. Et si les faits de la Bible sont exacts, ça veut dire que tout le reste est exact. N'en déplaise donc à tous ceux qui veulent voir un Jésus allégorique, un Jésus mythique, un Jésus mythologique. N'en déplaise à eux, Jésus a bel et bien existé. Et s'il a existé donc, le reste devient possible. Le reste c'est quoi? Le fait de sa naissance. Sa naissance qui n'est pas comme celle des autres êtres humains. C'est pas tout le monde qui naît un beau jour et dont la nouvelle de la naissance est annoncée avec bruit, avec des anges qui viennent annoncer la naissance. Nos naissances à nous n'ont pas fait l'objet de la venue et de la manifestation des anges. Nous sommes contentés d'avoir du téléphone, n'est-ce pas, du portable, des SMS et des choses comme ça pour signaler aux amis, aux frères que voilà, l'enfant est né. Mais plus que cela, vous avez vu à travers tout ce que René a dit, que la naissance de Jésus est particulière parce qu'il est né d'une femme qui n'avait pas encore connu d'homme. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Et à travers la Bible, on voit que là aussi, les anges ont fait plein d'allers-retours. Ils ont été voir des gens pour leur annoncer, pour donner des instructions. Et je pense particulièrement à Joseph. Joseph, c'est le fiancé de Marie. Voilà un homme intègre, sérieux, qui épouse une femme, enfin, qui se fiance à une femme sérieuse, intègre, et qui, au bout de quelque temps, voit que sa femme commence à prendre des rondeurs. Hé, j'ai encore rien fait, moi. Il voit que la femme commence à devenir enceinte, alors qu'ils sont encore fiancés. Bon, c'est vrai, en Israël, on ne se fiançait pas comme aujourd'hui. Nous, ici, on blague, hein. Nous, quand on se fiance, je t'aime, mais deux jours après, je vois que quand même la forme de ton visage commence à changer. Le vêtement que j'aimais bien, que tu mettais là, que je ne trouve plus. Ah non, 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 au revoir. Les fiançailles chez nous, ça se rompt, ça se remet, etc. Mais en Israël, quand on allait fiancer une jeune fille, c'était une promesse sérieuse de l'épouser. J'ai même lu, et j'ai même fait lire ça, j'ai même dit ça à ma femme, j'ai même lu avec étonnement qu'un auteur disait qu'en Israël, lorsqu'on s'était fiancé à une jeune fille et qu'on mourait, cette jeune fille était considérée comme veuve. Waouh ! Si c'était dans notre siècle d'aujourd'hui, ça poserait quelques questions juridiques très sérieuses. Voilà Joseph avec une femme qui se retrouve avec une femme enceinte, alors que lui, il n'a rien fait. Et il se dit, comme c'est un homme de bien, il se dit, je ne vais pas l'humilier, parce que la répudiation en Israël, c'était un acte honteux. C'était la fille avait honte, la famille avait honte, tout le monde avait honte. Et il s'est dit, non, je vais faire ça secrètement, en stoumening. C'est comme ça qu'on dit. Et là, pendant qu'il est en train de cogiter, de réfléchir comment il va s'y prendre, Vlatipa, qu'il y a un ange qui vient le visiter et qui lui dit, Joseph, ne fais pas ça. Ne remballe pas cette femme. Ne la répudie pas. Parce que l'enfant qu'elle a, c'est l'enfant que Dieu lui a envoyé. Et là, Joseph se rend compte que c'est Jésus. Et il lui dit, d'ailleurs, tu lui donneras le nom de Jésus. Il se rend compte que cet enfant est un enfant spécial. C'était encore le travail des anges. Jésus, non seulement ce ballet des anges qui montre que sa naissance est particulière, mais plus encore, vous savez, nous ne sommes pas tous les produits des prédictions. Aucun de nous n'a eu une naissance annoncée beaucoup d'années avant. J'ai une dame, une collègue, qui donne cours de religion, qui donne cours de morale, qui a dit qu'elle existe depuis 3600 ans. Parce qu'elle croit à la réincarnation, à ce machin-là, elle a le totem du chat, et donc elle a plusieurs vies, et donc elle aurait existé à 3600 ans. Moi, je l'ai regardée, j'ai fait un sourire idiot. C'est vrai ça? Tu dis vrai? Parce que pour moi, c'est des bêtises. C'est pas possible. Mais Jésus a été annoncé. Des prophètes ont annoncé sa venue. Nous allons voir un prophète 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe. Il annonce déjà, regardez, Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 800 ans auparavant. Donc ce que l'ange vient faire avec Joseph, c'est tout simplement la concrétisation de ce qui avait été annoncé 800 ans auparavant. Et vous savez, il n'est pas le seul. Même lui-même, celui qui a écrit ce texte, donc Matthieu, il va se souvenir aussi de cela. Dans Matthieu chapitre 1, verset 22, il va donc dire qui est donc ce Jésus. Qui est donc ce Jésus? Voilà, après que l'ange quitte Joseph, voilà ce que Matthieu commente. Il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et regardez la signification. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voyez, c'est une naissance particulière. Une naissance particulière parce que Jésus est particulier. Et Jésus est particulier parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Mes amis, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'acceptent plus aujourd'hui. Que Jésus soit un grand philosophe, d'accord. Que Jésus soit un grand penseur, d'accord. Que Jésus soit quelqu'un, on peut accepter qu'il a vécu, oui, d'accord. Mais qu'il soit Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, Dieu l'a envoyé. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu envoyé pour sauver l'humanité. Nous allons juste, tu as juste remonté le verset 21. Fantastique, hein, comment je te fais travailler. Hein. Je ne suis pas gentil. Hein. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Quelle est la mission de ce fils? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui, Jésus, qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc Jésus est un cadeau, le cadeau que Dieu envoie pour l'humanité, pour le sauver. Voilà pourquoi cet enfant sur la crèche, dont parle Luc, est un enfant spécial. C'est le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi il y a un déploiement d'anges pour annoncer sa venue. Et nous voyons cette bonne nouvelle qui est annoncée aux anges. Ce serait pour le plaisir des yeux. On va juste le revoir. Luc chapitre 2, tu as juste le verset 10 et le verset 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il nous est né un sauveur. Voilà pourquoi la fête de Noël est une fête de commémoration et de joie. Voilà pourquoi Noël est une fête spéciale, parce que nous nous souvenons que Dieu a pensé à nous, que Dieu nous a envoyé un cadeau, nous a envoyé une possibilité d'être gracié, d'être libéré, d'être délivré. Dieu nous envoie un cadeau. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est le porteur d'une bonne nouvelle. La nouvelle que Dieu fait la paix avec l'humanité. La nouvelle que Dieu, désormais, met en arrière sa colère pour mettre en avant sa grâce et son amour. Et tend la main. J'aimais bien ce discours que Barack Obama avait fait il y a déjà quelques années, avant qu'il n'oublie la plupart de ses engagements. Il avait fait déjà le discours avant, bien avant au début de sa carrière, et j'aimais bien cette image qu'il donnait. Il disait, les États-Unis vont avoir une main tendue à ceux qui veulent tendre la main, à ceux qui ont la main tendue, et ils vont avoir un poing fermé contre tous ceux qui auront le poing fermé contre les États-Unis. Et je crois que c'est ça que Dieu fait. Dieu nous tend la main. Il dit, dans un premier temps, je ne tends pas ma main contre, je ne ferme pas mon poing contre tous ceux qui sont rebelles à moi, tous ceux qui s'opposent à moi, tous ceux qui me cherchent. Dans un premier temps, je tends la main. Une main d'association, une main de partenariat, une main d'amour, une main de collaboration, une main pour faire route ensemble. Je tends ma main. À travers Noël, c'est ça que nous pensons. Dieu nous envoie un ambassadeur pour dire, Dieu a la main tendue. Venez, venez, venez ensemble. Mes amis, les mages avaient bien compris cela. Et voilà que comme ils avaient tellement bien compris cela, ils ont fait la démarche d'aller vers Jésus. De l'Orient où ils se trouvaient, ils ont fait le voyage parce qu'ils avaient compris que le roi des Juifs qui naissait était un grand roi qui venait apporter la paix. Alors, ce matin, nous sommes réunis dans cette salle. C'est peut-être pour nous aussi l'occasion de pouvoir s'arrêter un instant et réfléchir. Noël devrait être pour nous aussi un moment d'arrêt, un moment de stop, un moment de réflexion. Un moment où on s'arrête pour se poser la question. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de chacun de nous ici, personnellement? Qu'est-ce que je fête à Noël? Que fais-tu à Noël? Est-ce la parade des magasins, des courses, des cadeaux? Est-ce le déploiement des festins, des bonnes nourritures, des recettes qu'on essaye d'inventer en se surpassant? Est-ce ce moment de paix dans la ville où les gens font des efforts pour s'aimer encore un peu plus? c'est quoi Noël pour toi? Est-ce Noël pour toi, est-ce la fête du Sauveur? Est-ce la démonstration que Dieu a pensé à toi? Qu'il a vu ton état de pécheur? Oh, pécheur! René et moi, nous sommes des pécheurs. Nous sommes les seuls, hein, non? Les seuls pécheurs du coin ici, non? Le péché, c'est quelque chose que les gens rebutent. Et pourtant, le péché est profondément en nous. Nous sommes tellement habités par le péché. Notre nature est tellement pécheresse que l'apôtre Paul va dire, le mal que j'ai envie de faire, j'en suis incapable. Pardon. Le bien que j'ai envie de faire, j'en suis incapable. Et le mal que j'ai pas envie de faire, mais je le fais tout le temps. Qui peut dire que cela n'est pas vrai? Combien de fois n'avons-nous pas des choses en nos mains que nous gâchons? Combien n'avons-nous pas des vies qui sont bien tracées, bien rodées, qui sont bien parties, que nous cassons, que nous détruisons? Combien n'avons-nous pas, ne faisons-nous pas des erreurs? C'est parce que nous sommes habités par le péché. Le péché est quelque chose d'horrible, d'abominable. Ce n'est pas quelque chose seulement que Dieu condamne. Dieu ne nous fait pas porter une culpabilité, mes amis. Ce que Dieu fait, il pointe du doigt quelque chose qui nous est propre, qui est propre à notre nature. Et Noël, c'est un peu dire aux hommes, mes amis, je sais que vous êtes mauvais. Je sais que votre nature est mauvaise. Je sais que vous gâchez tout ce que vous tenez dans les mains. Je sais que le bien que vous avez envie de faire, vous ne le faites pas. Je sais que le mal que vous n'avez pas envie de faire, vous le faites. Je sais que vous avez envie de dire des mots gentils, mais vous en êtes incapable. Oui, de temps en temps, on fait du bien. Il y a des héros dans notre monde. De temps en temps, il y a des mères Teresa. Mais l'humanité entière est plongée dans la guerre, la haine, les séparations de toutes sortes, les maladies, les actes d'une rare violence. Regardez les séries d'assassinats qu'on a à travers les médias. Un père de famille qui entraîne toute une famille dans le bois, poum, 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 et puis se suicide. Une mère qui tue son enfant et qui ne sait même plus comment elle a fait. C'est la nature humaine. C'est le péché. Noël, c'est un peu nous rappeler qui nous sommes et nous dire Dieu nous offre la paix, nous offre le moyen de sortir de ce cercle infernal, de cette série de malheurs. Dieu nous donne cette possibilité. Vous ne le croyez pas? Les chrétiens, moi j'en suis un, quand ils se convertissent, quand ils viennent au Seigneur et quand ils s'attachent à Dieu, il y a des valeurs qui développent. Oh, pas de la manière parfaite, hein. On reste quand même encore humain, hein. Mais il y a des valeurs qui développent. Il y a le respect qui développe. Il y a des choses qui développent en eux dans leur vie. Oh, pas d'une manière parfaite, hein. Il y a beaucoup d'erreurs parfois qu'on commet encore. Mais nous avons une route qui est balisée. On a un partenariat avec Dieu. On a un ensemble de valeurs auxquelles on peut tenir. On a aussi des amis avec lesquels on peut cheminer. Des gens qui peuvent nous aider, nous aimer, tels que nous sommes. Oh, nous ne sommes pas parfaits. Mais cela aussi fait partie du cadeau de Dieu. Ce matin, est-ce que Jésus est-il celui que tu attends à Noël? Est-ce la bonne nouvelle de sa venue? Est-ce ce qui te réjouit à Noël? Suis-je dans l'attente d'un sauveur qui puisse me délivrer de mes péchés et de ma vie de rébellion à l'égard de Dieu? Ou bien, je suis indifférent à tout ça. Ça ne me dit rien du tout. Ce matin, j'aimerais vous dire, même si vous n'êtes pas capable, même si vous avez déjà essayé des millions de fois, des millions et des millions de fois d'essayer de croire, et que c'est toujours difficile aujourd'hui encore, vous pouvez renouveler votre démarche. Aujourd'hui encore, vous pouvez dire, Dieu, aide-moi. Aide-moi. Beaucoup de gens, mes amis, beaucoup de gens rejettent l'évangile. Beaucoup de gens rejettent l'évangile exactement comme cet enfant à qui j'offre un cadeau qui contient des millions dedans, peut-être même un héritage avec beaucoup d'argent, et qui dit « Non, j'en veux pas !» Et je lui dis « Mais pourquoi tu n'en veux pas ?»« Parce que c'est toi qui me l'offres, et je t'aime pas. Je veux pas de ton cadeau parce que... » Aujourd'hui, les gens rejettent l'évangile sans même savoir pourquoi. J'ai essayé de parler avec mes collègues il n'y a pas longtemps. Il y en a un. Monsieur, je ne vous écoute même pas. Je ne veux pas entendre parler. Pourquoi ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Beaucoup de gens rejettent l'évangile sans l'avoir compris, sans l'avoir écouté. Et ce matin, je vous invite à savoir que il y a quelque chose que dans la Bible qui est dit. Jésus, la lumière du monde, elle est venue chez les siens. Les siens, c'est l'humanité. C'est les hommes. Des hommes comme vous et moi. Des hommes et des femmes, bien sûr. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Oui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes rejettent. Rejettent la parole de Dieu. Rejettent Jésus. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont dit, ok, je vais écouter, je vais tenir compte, je vais laisser que ce Jésus devienne mon ami, influence ma vie. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont dit, ok, à ceux qui croient en son nom, qui font confiance à tout ce qu'il dit, qui intègrent que ce qu'il dit est forcément vrai. Alors à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà le cadeau de Dieu. Devenir enfant de Dieu. C'est plus que faire la paix simplement. C'est entrer dans la maison. C'est faire partie de la famille de Dieu. C'est être enfant de Dieu. Avoir une relation d'enfant à père avec Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de l'homme ni de la volonté humaine, mais sont nés de Dieu. C'est Dieu lui-même qui met en place ce mécanisme qui me transforme et qui me change. Je ne change pas parce que je suis le meilleur, parce que j'ai été très bien éduqué, parce que ceci, parce que cela. Si je change, c'est parce que je laisse Dieu dans ma vie me changer. Et le changement est profond, il est radical. C'est cela Noël aussi, mes amis. Ce matin, la balle est dans votre camp pour réfléchir, faire écho à ce que vous entendez et prendre la décision qu'il faut.